Nous avons tous une échelle de priorité dans la vie, c'est pas vrai? Et notre échelle de priorité reflète l'échelle de nos préoccupations, c'est-à-dire que nous avons tous un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous, et c'est parce que ces choses sont importantes qu'on va vivre d'une certaine manière et pas d'une autre, en faisant certaines choses en priorité plutôt que d'autres. Par exemple, si vous êtes étudiant et qu'il est très important pour vous d'obtenir un certain diplôme, vous allez sans doute consacrer du temps en priorité à étudier, non? Pour pouvoir ensuite réussir vos examens et atteindre vos objectifs. Alors je vous demande donc cet après-midi, quelles sont vos préoccupations principales à l'heure actuelle? Quelles sont vos préoccupations principales? Qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous? Est-ce que c'est par exemple le fait de gagner de l'argent pour pouvoir vous assurer une certaine sécurité matérielle, ainsi qu'à vos enfants ou à vos futurs enfants? Est-ce que c'est le fait d'être bien vu par votre cercle d'amis, bien intégré dans votre collège, dans votre lycée, dans votre fac ou dans votre entreprise? Est-ce que c'est ça qui est important pour vous? Est-ce que c'est une certaine carrière professionnelle que vous comptez avoir, que vous espérez avoir? Est-ce que c'est un certain niveau de vie que vous espérez atteindre? Ce qui est important pour vous ce soir, est-ce que c'est le fait de pouvoir voyager souvent et librement et de découvrir toutes sortes d'endroits différents dans le monde? Est-ce que c'est le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants un jour? Est-ce que c'est ça qui vous préoccupe? Est-ce que c'est un certain loisir, comme le foot, le vélo, la musique, les séries télé, les jeux vidéo, la danse écossaise? Qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous aujourd'hui? Quelles sont vos priorités? C'est bien la question qui est soulevée par le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble. Il s'agit donc de la troisième et dernière partie de ce long discours que Jésus fait en réponse à ses disciples qui lui ont demandé, souvenez-vous, à quoi il reconnaîtrait que le règne du Messie sera venu. Ils veulent savoir à quoi il pourrait reconnaître le moment venu, que le règne du Messie a été établi. Ce qu'ils veulent, les disciples, c'est que Jésus leur donne des éléments qui les encourageraient plus tard lorsqu'ils seront confrontés aux difficultés de leur vocation et de la vie chrétienne en général. Ils veulent savoir comment ils pourront tenir bon et persévérer malgré tout. Et dans sa réponse, si vous étiez là pour l'écouter, cela va vous rappeler quelque chose. On a déjà vu que Jésus d'abord donne à ses disciples tous les éléments, en effet, pour qu'ils puissent être sûrs, le moment venu, que Jésus règne bel et bien et qu'il est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Et ensuite, on a vu dans un deuxième temps que les croyants devaient vivre dans la perspective de leur rencontre imminente avec le Seigneur. Donc, ce que Jésus est en train de faire dans sa réponse, c'est qu'il est en train d'expliquer à ses disciples certaines conséquences qu'ils doivent tirer pour leur vie quotidienne de l'œuvre que lui, Jésus, était à ce moment-là sur le point d'accomplir par sa mort, sa résurrection et son ascension auprès de Dieu le Père. Et maintenant, pour confirmer et conclure en quelque sorte tout ce qu'il a déjà dit, Jésus va soulever de manière un peu plus explicite la question de ce qui devrait occuper la priorité dans la vie des croyants, tant qu'on est sur terre en tout cas. Et ce que le texte va nous faire comprendre ici, c'est tout simplement l'idée suivante. L'œuvre de Jésus impose à notre vie des préoccupations hors du commun. L'œuvre de Jésus impose à notre vie, on devrait dire à notre vie présente, des préoccupations hors du commun. Autrement dit, puisque Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, c'est son œuvre, n'est-ce pas? Et puisque Jésus règne aujourd'hui, et puisqu'il va revenir un jour pour juger le monde et pour établir de manière complète, manifeste et définitive son règne dans toute la création, eh bien, puisque Jésus a fait, est en train de faire et va faire tout cela, eh bien, il y a certaines choses qui devraient se situer tout en haut, ou presque, en tout cas, de notre échelle de priorité. Quelles sont ces choses? Eh bien, regardons le texte. Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci infiniment pour ta parole et l'occasion que nous avons ce soir de l'étudier ensemble. Nous te demandons de sanctifier et de bénir la prédication de ta parole. Seigneur, par ton Saint-Esprit, instruis-nous s'il te plaît. Applique ta vérité à notre vie. Te le demandons humblement au nom de Jésus. Amen. Il y a une seule idée principale ici, c'est que l'œuvre de Jésus impose à notre vie présente des préoccupations hors du commun. Mais il y a 2 points pour nous faire comprendre cela. Le premier, c'est que Jésus attend des croyants qu'ils le servent de manière fructueuse. Jésus attend des croyants qu'ils le servent de manière fructueuse. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a donc cette fameuse parabole des talents. C'est comme ça qu'on l'appelle souvent. C'est l'histoire d'un homme qui confie ses biens matériels à ses serviteurs, et qui va s'absenter ensuite pendant une assez longue période. À son retour, qu'est-ce qui se passe? Il félicite les serviteurs qui ont investi et qui ont fait fructifier les richesses du maître. Mais à son retour, il punit aussi le serviteur qui n'a rien fait avec les richesses du maître, que le maître lui avait confiées. La moralité, elle est simple, hein, c'est que tous les gens qui se disent disciples de Jésus ont la capacité de le servir. C'est une grâce de Dieu d'avoir des mains, des pieds, du temps, de l'argent, un cerveau, des connaissances, de l'expérience et toutes sortes d'aptitudes particulières en plus. Mais il ne suffit pas d'avoir reçu tout ça de la part de Dieu. Il faut encore investir tout cela au profit du Seigneur. C'est ce qu'il veut. Et le jour où nous le rencontrerons, il fera le constat de ce qu'on aura fait avec les biens qu'il nous avait confiés. C'est clair, non ? Il faut encore remarquer deux choses pour bien comprendre cette parabole. Une parabole, c'est un récit, je vous le rappelle, un récit allégorique destiné à illustrer une leçon particulière. Deux choses. Premièrement, vous vous dites peut-être que ce n'est pas juste. Il y en a un sur les trois qui a quand même reçu moins que les autres. En fait, Jésus dit bien que chacun a reçu, verset 15, chacun a reçu selon sa capacité. Ce qui veut dire que le Seigneur distribue ses biens comme il veut, mais il le fait de manière parfaitement sage, selon les capacités de chacun. Tout le monde est capable de servir Dieu, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités. Dieu distribue selon nos capacités. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul lorsqu'il parle de ce qu'on appelle communément les dons spirituels. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. C'est une expression qui désigne ces aptitudes particulières propres à chacun que Dieu veut, si nous sommes croyants, que Dieu veut que nous utilisions à son service. Et Paul dit, l'apôtre Paul dit donc que l'Esprit de Dieu distribue ses grâces, je cite, « à chacun en particulier comme il veut ». Dans un autre passage, il dit « à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ ». Et encore dans un autre passage, « nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée ». Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que un talent, deux talents ou cinq talents, dans tous les cas, ça représente une très grande richesse. Un talent, c'est une unité monétaire de l'époque, ça représente pratiquement 20 ans du salaire moyen de l'époque. Juste un talent. Donc c'est entre 350 et 400 000 euros, un talent. Donc c'est assez conséquent, n'est-ce pas ? Donc un talent, deux talents, cinq talents, dans tous les cas, ça représente une grande richesse. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité du troisième serviteur n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'il a reçu. On n'est pas trop sûr, à vrai dire, quand on lit ce texte, on n'est pas tellement sûr de la logique invoquée par ce serviteur pour expliquer pourquoi il n'a rien fait des richesses qui lui avaient été confiées. Est-ce qu'il avait peur d'échouer dans ses investissements et par conséquent d'encourir la colère de son maître ? Est-ce qu'il avait peur plutôt du regard des gens autour de lui qui le verraient travailler pour cet homme dur que personne n'appréciait, tout le monde savait qu'il était dur et qu'il moissonnait là où il n'avait pas répandu. Est-ce qu'il avait peur du regard des autres ? Ou bien est-ce que ce serviteur cherche simplement à se justifier de manière finalement assez hypocrite ? Il fait preuve de mauvaise foi en quelque sorte en renvoyant la responsabilité de son inactivité sur le maître lui-même. En gros, c'est ta faute, si tu n'étais pas si dur, j'aurais fait quelque chose, mais j'ai eu peur. Alors on n'est pas trop sûr de son intention, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se cherche des excuses en tout cas. Il cherche à se justifier. Et ce qui est sûr aussi, c'est que la réponse du maître ensuite est destinée à faire disparaître toute excuse. Elle est là pour rendre ce serviteur inexcusable. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier le fait que ce serviteur n'a rien fait des richesses que le Seigneur lui avait confiées. Jésus attend des croyants qu'ils le servent de manière fructueuse. Et ce n'est pas de l'exploitation, comme on pourrait le penser, c'est au contraire un incroyable privilège. Rendez-vous compte, la Bible nous explique que par nature, nous sommes séparés de Dieu, par notre faute, et même que nous sommes morts, morts spirituellement par nos péchés. Mais dans cet évangile selon Matthieu, ce récit biographique de Jésus que l'apôtre Matthieu nous fait ici, que nous étudions depuis plusieurs mois, on a déjà vu que Jésus, quelques chapitres auparavant, avait déjà expliqué qu'il était venu en tant que Messie, conformément aux promesses de Dieu, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est-à-dire que Jésus a souffert et il est mort à la croix pour régler la dette de nos péchés, justement pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus, dans ce même évangile, a aussi annoncé d'avance qu'il ressusciterait le troisième jour en vainqueur sur le mal et sur la mort. Il a dit aussi qu'en tant que Messie, il allait établir son royaume et qu'il allait déployer son royaume sur la terre pour le bien des croyants, pour le bien même de toute la création et pour sa propre gloire. Et maintenant, il nous invite, il invite ses disciples et il invite les croyants à devenir par la foi des sujets de son royaume, c'est-à-dire des serviteurs de ce roi bienveillant, si bienveillant qu'il a donné sa vie pour ses sujets. Si bienveillant qu'il a donné sa vie pour nous, les croyants. C'est donc pas du tout de l'exploitation, n'est-ce pas ? c'est au contraire un incroyable privilège d'être au service de Jésus-Christ. Plutôt qu'au service de nous-mêmes, plutôt qu'au service de nos intérêts égoïstes, plutôt qu'au service de nos passions néfastes, plutôt qu'au service de nos péchés et en fin de compte du diable. Si nous sommes croyants, si nous avons placé notre confiance en Jésus, si nous l'aimons, si nous désirons le suivre, ça veut dire premièrement que nous sommes sauvés des conséquences, qu'on pourrait dire des conséquences pénales de nos péchés, c'est-à-dire qu'au lieu d'être condamnés au jour du jugement, nous serons plutôt accueillis par Dieu dans son paradis pour l'éternité. Mais deuxièmement, ça veut dire, si nous aimons Jésus et si nous désirons le suivre, ça veut dire deuxièmement que nous sommes aujourd'hui au service de sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a confié toutes sortes de richesses, selon sa sagesse et selon nos capacités propres. Il nous a confié notre santé, notre intelligence, notre temps, notre argent, notre expérience, notre sagesse, et toutes les aptitudes qui nous sont propres, soit parce que nous les avons acquises par les études, par la formation, par l'expérience, soit parce qu'elles nous sont venues, je dirais presque naturellement, en raison de notre personnalité. Il y a des aptitudes relationnelles, organisationnelles, musicales, médicales, artistiques, scientifiques, culinaires, linguistiques, des aptitudes relatives à l'enseignement, au leadership, au discernement, à la prière, à l'évangélisation, à la réflexion critique, à la philosophie, à la comptabilité, à l'entraide, au sport, aux nouvelles technologies, à la mécanique, à la logistique, et il y en a encore plein d'autres encore, des aptitudes que nous avons, qui sont des dons de Dieu, des grâces de Dieu. Il y a une incroyable richesse parmi nous, il y a une incroyable richesse dans cette pièce ce soir. Et tout ça, en plus, si on est croyant, tout ça est sanctifié par Dieu et en quelque sorte infusé de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il faut prendre à cœur cette phrase célèbre prononcée par l'oncle Ben à l'attention de son neveu Peter Parker. Suivez, les jeunes. Peter Parker, que l'on connaît plus communément sous le nom de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous sommes riches et puissants en Jésus, parce que nous avons ces talents qu'il nous a confiés. Si vous avez plusieurs talents, ça fait déjà de vous un millionnaire, hein, si vous avez fait le calcul. Hein. Un talent, ça représente 20 ans de salaire. Vous avez plusieurs talents. Nous sommes riches et puissants en Jésus, parce que nous avons ces talents qu'il nous a confiés et parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons donc des talents, mais est-ce que nous nous soucions de l'usage que nous en faisons pour le Seigneur? Ou bien l'usage que nous en faisons est-il principalement pour nous? Ou bien encore, est-ce que nous avons enfoui ces talents pour une raison quelconque, par peur ou par paresse, en nous cherchant des excuses pour ne pas les faire fructifier pour Dieu? Jésus attend des croyants qu'ils le servent de manière fructueuse. Parce que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, et parce qu'il règne et parce qu'il va revenir, eh bien une de nos principales préoccupations aujourd'hui devrait être de savoir comment servir Dieu avec toutes les richesses qu'il nous a confiées et comment faire porter du fruit à ces richesses pour sa gloire. Rien que ça, ça devrait déjà modifier quelque peu notre échelle de priorité, vous ne pensez pas? Mais deuxième point, Jésus attend des croyants qu'ils affectionnent son Église. Jésus attend des croyants qu'ils affectionnent son Église. Alors après cette fameuse parabole des talents, Jésus va conclure ce long discours qui a occupé deux chapitres de l'Évangile selon Matthieu. Et il va conclure en décrivant ce qu'on appelle communément le jugement dernier, versets 31 à 46. Et on pourrait penser que toute cette conclusion a pour objet principal, en effet, le jugement dernier et la doctrine du paradis et de l'enfer. Peut-être pour à la fois nous encourager dans nos afflictions présentes, en portant notre attention vers ce qui arrivera à la fin, et en même temps pour nous faire trembler d'une crainte positive et bénéfique finalement pour notre piété et pour notre vie chrétienne en général. Sans doute y a-t-il un peu de ça dans ce texte. Mais encore une fois, il faut bien remarquer deux choses. D'abord que Jésus a déjà enseigné ses disciples concernant le jugement dernier. Ce n'est pas une nouveauté à ce stade du récit. Il en a déjà parlé auparavant. Et donc, ça veut dire que la doctrine du paradis et de l'enfer, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus annonce à ses disciples. Ils sont déjà au courant. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que le texte ici n'explique pas sur quelle base on sera accueilli au ciel ou sur quelle base on sera condamné au châtiment éternel. Tout ce qu'on sait, dans ce passage-ci, c'est qu'il y a des brebis et des boucs qui représentent les sauvés et les non-sauvés, les justes et les injustes, les gentils et les méchants, si vous préférez. Et Jésus va décrire une caractéristique particulière de leur vie sur terre. Jésus ne dit pas que c'est cette caractéristique particulière qui aura fait qu'ils sont sauvés ou non. Mais plutôt, c'est le fait qu'ils soient sauvés ou non qui aura entraîné cette caractéristique dans leur vie. C'est parce qu'ils sont des brebis et des boucs qu'ils ont agi de telle ou telle manière. Et ce n'est pas le fait qu'ils ont agi de telle ou telle manière qui a fait d'eux des brebis et des boucs, ou des justes et des injustes. Vous vous suivez ? Et c'est sur cette caractéristique particulière de la vie présente que le texte, me semble-t-il, veut attirer notre attention plus que sur la réalité future du jugement dernier. Et cette caractéristique, quelle est-elle ? C'est la sollicitude, ou à l'inverse, l'absence de sollicitude à l'égard des frères de Jésus, verset 40. C'est-à-dire, par sollicitude, je veux dire le soin, l'amour, l'affection manifestée concrètement à l'égard de ceux que Jésus appelle, dans ce passage, ses frères. Jésus, donc, félicite les brebis à sa droite, car, pendant leur vie sur terre présente, elles ont nourri, abreuvé, accueilli, vêtu et visité Jésus, dit-il, pendant leur vie terrestre, et il explique que c'est en faisant tout cela pour ses frères qu'en réalité ils l'ont fait pour lui. Et même en faisant cela pour le moindre de ses frères, qu'ils ont fait cela pour lui. Les frères de Jésus, ce sont les croyants. Ce sont les membres de l'Église. À toutes les époques. Et dans tous les lieux. À l'inverse, les boucs n'ont pas fait ça. Ils ont été soit indifférents, soit peut-être même délibérément cruels à l'encontre des croyants. Ce que Jésus est en train de souligner ici à l'attention de ses disciples, mais aussi à notre attention en tant que croyants aujourd'hui, c'est qu'un amour authentique pour Jésus se traduit par un amour authentique pour les autres croyants. C'est-à-dire pour l'Église, tout simplement. Un amour authentique pour Jésus se traduit par un amour authentique pour les autres croyants, c'est-à-dire pour l'Église. Imaginez quelqu'un qui se dirait supporter de l'Olympique lyonnais. Okay ? Quelqu'un qui serait fier d'arborer son t-shirt et son écharpe aux couleurs du club. Ça marche avec Saint-Étienne aussi. Hein. Okay. Quelqu'un qui aurait aussi, non seulement ça, mais le cartable de l'OL, la trousse de l'OL, le stylo plume de l'OL, la tirelire de l'OL, les draps, la couette et les oreillers de l'OL, la tasse, le bol, l'assiette et les couverts de l'OL, etc., etc. Mais ce bonhomme ne s'intéresse jamais au match de l'OL. Il n'a aucune idée du classement de l'OL. Il ne sait même pas qui sont les joueurs ou l'entraîneur ou le président. Alors ce serait assez curieux, non ? Vous ne trouvez pas ? Imaginez peut-être une autre situation, quelqu'un qui se dirait fan de Johnny Hallyday mais qui n'écouterait jamais ses CD. Ou quelqu'un encore qui se dirait amoureux de la montagne, qui aurait des photos de montagne en arrière-plan sur son ordinateur, sur son téléphone, son smartphone, qui serait abonné à toutes les pages Facebook qui traitent de la montagne, mais qui préfère aller à la plage dès qu'il a un moment de libre. Ça serait vraiment curieux. Moi, je comprendrais pas, personnellement. Quand on aime quelque chose de manière sincère, il est naturel que cela se traduise, n'est-ce pas, au niveau de nos préoccupations et de nos priorités. Le supporter de l'OL qui ne s'intéresse pas au match de l'OL, c'est pas un vrai supporter. Le fan de Johnny Hallyday qui écoute jamais ses CD, c'est pas un vrai fan de Johnny. L'amoureux de la montagne qui a le choix entre la plage et la montagne et qui choisit la plage, c'est pas un vrai amoureux de la montagne. Ça vous paraît logique, n'est-ce pas ? De la même façon, le chrétien qui n'a pas le corps de Christ qu'est l'Église tout en haut ou presque de son échelle de priorité, c'est pas un vrai chrétien. Le chrétien qui n'a pas le corps de Christ qu'est l'Église tout en haut ou presque de son échelle de priorité, ça peut pas être un vrai chrétien. Aimer Jésus, je dis bien aimer Jésus, C'est pas juste se dire chrétien. C'est pas juste mettre un autocollant de poisson à l'arrière de sa voiture. C'est pas juste posséder une Bible et avoir quelques posters chez soi avec des versets bibliques écrits dessus. C'est pas juste donner des sous à des œuvres caritatives. C'est pas juste écouter de la musique chrétienne à la maison. Aimer Jésus. Non, aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. Aimer Jésus, c'est s'intéresser à ce à quoi s'intéresse Jésus. Aimer Jésus, c'est s'investir dans ce en quoi Jésus s'est investi et continue de s'investir. Aimer Jésus, c'est écouter Jésus. C'est suivre l'actualité de Jésus, si j'ose dire. C'est se consacrer à lui de manière pratique. Et tout ça, mes amis, ça se passe par excellence dans le cadre de l'Église locale. Dans le cadre de la communauté visible, concrète des autres croyants. Et c'est incroyable quand on y pense. C'est vraiment incroyable. Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Ça correspond à ce qu'il dit ici, hein, ce que vous faites au plus petit de mes frères. C'est à moi que vous le faites. Là où deux ou trois des moindres des croyants, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Votre relation avec les autres croyants, c'est donc une partie extraordinairement importante de votre relation avec Jésus lui-même. Votre sollicitude à l'égard des autres croyants traduit votre amour pour Jésus, et c'est comme ça que Jésus le voit et l'interprète. Nous devons considérer notre investissement dans la vie de nos frères et sœurs de l'Église comme étant extrêmement important, si du moins nous considérons que notre relation à Jésus est extrêmement importante. Ce qui se passe le dimanche, chaque dimanche, dans ce lieu, est incroyablement significatif si nous prenons à cœur ce que dit Jésus dans ce passage. Et ce qui se passe le mercredi et le jeudi, dans les groupes de maison, est incroyablement significatif si nous prenons à cœur ce que Jésus dit dans ce passage. Et aussi tout ce qui se passe au groupe de jeunes, au groupe d'ados. Et à chaque fois que deux ou trois croyants se réunissent au nom de Jésus, ce qui s'y passe est incroyablement significatif. Mais est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que c'est important pour vous ce soir? Ou bien est-ce que nous nous soucions davantage de notre relation, disons, avec les copains de classe, ou avec les collègues de bureau, ou avec les autres membres de mon club de tir à l'arc? Jésus attend des croyants qu'ils affectionnent son Église. Et à chaque fois que j'aurai eu l'occasion de servir un frère ou une sœur dans la foi, à chaque fois que j'aurai eu l'occasion d'être là, tout simplement pour lui ou pour elle, de l'écouter, de prier pour lui ou pour elle, et avec lui ou avec elle, à chaque fois que j'aurai eu l'occasion de l'encourager, de lui donner des conseils à ce frère ou cette sœur, de subvenir à ses besoins, de l'aider pratiquement, et que j'aurai à ce moment-là préféré mon propre intérêt, mon propre confort ou mes propres relations avec le monde, Jésus me dira, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est dur et c'est radical, mais telle est la vocation chrétienne, n'est-ce pas? C'est pas que nous devons remplir toutes ces exigences pour plaire à Dieu, hein. Pas du tout. Alors pas du tout. Mais parce que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel pour nous, et parce que notre Messie, notre roi règne aujourd'hui, et parce qu'il va revenir pour juger le monde un jour et pour établir pleinement son règne dans toute la création. Pour cela, eh bien, il y a certaines choses qui devraient se situer tout en haut de notre échelle de priorité, comme on l'a vu à travers ce passage. C'est ce que je disais au début. L'œuvre de Jésus impose à notre vie présente des préoccupations hors du commun. Si nous sommes croyants, l'œuvre de Jésus nous impose comme préoccupation notre service de Dieu par tous les talents qu'il nous a confiés. Nous avons été rachetés à un grand prix pour glorifier Dieu. Nous sommes comme James Bond au service de sa majesté. Et nous devons nous souvenir chaque jour de la mission que Jésus a confié aux chrétiens, qui consiste à le faire connaître dans le monde entier et qui consiste à étendre son règne dans tous les domaines de la vie, à commencer par la nôtre de vie. Nous devons prendre le temps de réfléchir dans la prière. Faites-le cette semaine. Réfléchissez dans la prière aux meilleurs moyens de faire fructifier pour Dieu toutes les ressources et les aptitudes qu'il vous a données. Et puis, si nous sommes croyants, l'œuvre de Jésus nous impose aussi comme préoccupation le service de notre prochain, dans le cadre de l'Église. L'Église est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que la Bible nous le présente. Jésus est la tête de l'Église, nous en sommes les membres, unis par le Saint-Esprit autour d'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, comme on l'a lu tout à l'heure. Et si nous sommes authentiquement attachés à Jésus, nous devrions être logiquement tout autant attachés les uns aux autres. Nous devons peut-être par conséquent prendre aussi cette semaine le temps de réfléchir dans la prière à la place qu'occupent nos frères et sœurs de l'Église déjà dans notre cœur et ensuite peut-être dans notre emploi du temps. Puissent ces choses qui sont si importantes pour Jésus, puissent-elles prendre toute leur place dans nos préoccupations. Et j'espère vraiment que le Saint-Esprit va prendre ces choses, ces préoccupations hors du commun qui découlent de l'œuvre de Jésus en notre faveur. Je prie que le Saint-Esprit va prendre ces choses-là, ces préoccupations, et les imprimer sur notre cœur, sur le mien en premier, de telle façon à ce que toute notre échelle de priorité se conforme au désir de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Et puisses-tu en effet faire cette œuvre puissante dans notre vie pour nous conformer à tes desseins, tout simplement. Nous te remettons la semaine qui est devant nous afin que les choses que nous avons pu voir ce soir, nous ne les oublions pas. Mais que par ton Saint-Esprit, tu nous travailles, Seigneur. Et que tu nous modèles, que tu nous façonnes pour que nous soyons transformés, tout simplement. Et cela, à ta gloire. Amen.